Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Startup Mafia. Je suis Kamel Zeroual, investisseur dans la tech et entrepreneur depuis toujours. Startup Mafia, c'est un format long. Une saison est consacrée à une scale-up et un épisode est consacré à un talent. L'objectif, comprendre l'envers du décor avec un prisme talent, car c'est eux qui contribuent, avec les fondateurs, à faire grandir le business de manière si rapide. Excellente écoute à tous. C'est parti Nicolas,
Je suis ravi de passer une heure avec toi parce qu'on se connaît bien. J'ai été du côté board, donc on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on a régulièrement l'occasion d'échanger ensemble. Là, on va passer un peu de temps pour essayer de comprendre ton rôle qui a évolué au sein de Brigade entre ton arrivée aujourd'hui. Pour que tout le monde sache un peu qui tu es, présente-nous un peu ton état civil et ton rôle chez Brigade.
Ouais, bah ravi également, Kamel. C'est vrai que ça change des relations qu'on a eues avant. Donc moi, Nicolas, je suis Chief Revenue Officer chez Brigade. Je suis dans la boîte depuis 5 ans maintenant. Mon rôle, c'est de superviser 3 équipes dans l'organisation, que sont les équipes sales, les équipes marketing et une équipe qu'on appelle Business Operations, qui travaille sur la performance commerciale. Et en fait, dans une boîte comme Brigade qui est en croissance, évidemment, tout le monde est responsable de la croissance. C'est la seule chose qu'on fait, c'est de la croissance. Mais j'aime bien dire que moi, au sein du C-Level, du Comex, mon indicateur particulier, c'est la croissance de la top line, la croissance de la GMV. Et donc, je le fais avec ces 3 équipes, sales, marketing et business operations. Et mon rôle a assez peu changé en réalité sur les 5 années que j'ai passées dans la boîte. Il y a eu des phases très différentes dans la boîte. On va peut-être revenir dessus entre avant le Covid et après le Covid. Ce qui fait que mon job au quotidien a changé et mon rôle est resté assez similaire sur les 5 ans.
Ouais, on va revenir sur toutes ces étapes. Peut-être pour qu'on comprenne un peu tes forces d'aujourd'hui et surtout, en fait, qu'est-ce qui fait que tu es légitime sur ce rôle-là. Si on prend un peu de recul, toi, ton background, si on vient dans les années lycée, tu grandis à Paris, c'est quoi un peu ton setup de départ?
Ouais, non, je ne grandis pas du tout à Paris. Je suis parisien, je suis né à Paris. J'ai quitté Paris à 5 ans pour suivre mes parents qui travaillaient à l'étranger. Ouais. Donc j'ai grandi en Belgique et en Italie. C'est pas le bout du monde, mais en fait, t'es quand même à l'étranger. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de ça, parce que tu vois, en te répondant, je réfléchis en même temps. Et je pense que c'est pas complètement par hasard. Il y a un truc dans ma personnalité qui fait que j'aime bien sortir de ma zone de confort. J'aime bien aller faire des trucs nouveaux, sortir de ma zone de confort. Et ça vient peut-être un peu de là, tu vois. Il y a peut-être un petit côté... j'ai calculé, j'ai fait 9 écoles différentes dans ma scolarité, changé tous les 2 ans. Et ça m'a jamais perturbé, en fait. Au contraire, j'ai toujours trouvé ça plutôt cool. Et ça m'a permis de rencontrer, enfin d'être dans des milieux différents et de rencontrer des gens, de m'adapter, etc. Donc ça, c'est un trait de ma personnalité qui est lié à mon enfance. Et puis après, je reviens en France après le bac.
Okay.
Je fais mes études en France. Donc je fais prépa et HEC et HEC derrière.
Pourquoi ce choix?
J'avais pas, tu sais, t'as des gens en fin de lycée qui ont une vocation, un truc hyper clair. Ils disent, je vais être médecin, je vais être instit, je veux faire ça. Moi, c'était pas le cas. J'avais pas un truc. D'ailleurs, quand je passais typiquement après la prépa, quand je passais les entretiens, là, dans les écoles de commerce, je crois qu'à chaque fois, je disais un truc différent. Quand il fallait parler un peu de son plan de carrière, tu sais, je disais à chaque fois un truc différent. Donc, j'avais pas une vocation très claire. Je l'ai plus choisi, je pense, en fonction des matières. Ouais. Qui me plaisait. Je me souviens, j'aimais bien les maths, j'aimais bien l'histoire. Donc les matières que j'aimais bien, les langues, okay. Donc des trucs, les matières qu'on fait en prépa HEC. Donc j'ai plutôt fait comme ça, en fait, petit à petit. J'ai pas eu de révélation.
Et tes parents, puisque vous êtes à bouger dans plein de pays, eux, ils ont quoi comme job? Est-ce que t'es sensible au business? Est-ce que t'es nourri de ce côté-là ou pas du tout?
Ouais, complètement. Enfin, mon père, business et le type d'études aussi, grande école. Mon père bosse dans il a fait toute sa carrière dans une boîte qui s'appelle Solvay, une grande boîte belge, qui maintenant est au CAC 40. Donc il a fait sa carrière là-dedans. Il avait fait Centrale et Léna. Donc j'ai baigné dans l'univers okay. Grande école et carrière en entreprise privée. Ma mère a toujours été mère au foyer, Ma mère a toujours été la mère au foyer, mais pareil, elle fait une prépa HEC, donc peut-être que d'ailleurs j'ai suivi sa trace sans m'en rendre compte. Mais ouais, j'ai baigné, moi, dans ma famille, ouais, j'ai baigné, mon oncle a fait HEC, deux de mes oncles ont fait HEC. Okay. Ah, voilà, donc j'ai baigné dans cet univers-là.
T'es préformaté pour ça.
Un peu.
Ok.
Un peu.
Donc tu fais cette école de commerce, qu'est-ce que tu apprends et qu'est-ce que tu dis que ça va t'amener, ça t'amène à quel type de métier ou quel type d'industrie?
En fait, mon choix décisif, il a même pas encore été fait à la sortie de l'école. Tu vois, j'ai continué un peu ce truc de bon élève, de j'aime bien les matières, je vais petit à petit, je vais avancer. Et donc, tu vois, j'ai fait dernière année d'HEC, je fais majeur stratégie. J'avais fait l'année de césure avant, j'avais fait un de mes deux stages. Bah, en fait, ça résume un peu ce que tu dis jusqu'à présent. J'ai fait un premier stage, un truc un peu bizarre dans l'immobilier en Italie. Sortir de ma zone de confort, je parlais vaguement italien parce que j'avais passé 3 ans en Italie entre l'âge de 6 ans et 9 ans et je voulais que ça revienne. Donc c'était un peu peu importe le stage, je vais à la Milan. Et après j'ai fait un deuxième stage, le stage Bonne Ève dans le conseil à Paris. Donc je fais ma dernière année en majeure stratégie et puis un peu, tu vois, parce que moi c'était la période où le conseil en strat c'était une des voies royales.
D'accord.
En sortie d'école et donc j'ai un peu suivi ce truc là, mais c'était pas un choix de carrière, tu vois. Il y a aucun moment jusqu'à cet âge là finalement, quand j'ai refait l'histoire, il y a jamais eu un moment où je me suis dit ok, c'est quoi mon choix de carrière pour les prochaines années.
Ça te ferme pas de porte, quoi.
Ça me ferme pas de porte, exactement, c'était un peu comme ça que je le voyais. Mais j'ai passé 2 ans et demi dans le conseil et j'ai adoré d'ailleurs. J'ai adoré, hyper responsabilisant. Tu bosses avec des gens d'un niveau hyper élevé. J'ai appris la rigueur, j'ai appris à travailler, enfin, j'ai appris plein de choses. Et en fait, je l'ai vu quasiment comme un troisième cycle. Tu vois, comme un troisième cycle. C'était encore la suite de cet apprentissage et qui
l'école après l'école, quoi.
Ouais. Et là, c'est le moment décisif, il est à ce moment-là. Il est à la fin du conseil.
Oui, parce que 2 ans et demi, c'est pas si long, en fait, finalement.
Non, c'est pas très long, 2 ans et demi. T'as un moment où, en fait, c'est un moment où tu te dis, bon, bah, si je passe de junior à senior, c'est pour rester ensuite, devenir manager, etc. Ou est-ce que je pars? Il y avait plein de trucs que j'adorais, tout ce que je viens de dire, mais il y avait un truc qui me gênait. C'était mes clients. C'est qu'on bossait que pour des grosses boîtes. Et je voyais les gens qui bossaient dans ces boîtes-là, je les trouvais pas heureux, globalement. Je les trouvais pas très heureux. Et surtout, je trouvais qu'ils avaient aucune prise d'initiative. Et très peu d'impact sur la boîte. Ils avaient même des gens seniors, tu vois, ils avaient un impact sur un périmètre de la boîte. Mais au final, à la fin de l'année, tu pouvais dire, c'est extrême, hein, ce que je vais dire, mais, t'aurais pas été là toute l'année, parce que ça aurait changé quelque chose pour la boîte. Mais vraiment, enfin, sur des gens, niveau N-1 Comex, donc dans des gros groupes, donc des gros postes. Et là, je me suis dit, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Donc là, on est dans les années, on est en 2011.
Tu veux pas ressembler à ça ou tu veux pas aider
ça m'excitait pas. Je veux pas ressembler à ça.
Ok.
Le conseil, j'aimais bien. Parce qu'il y a un petit côté entrepreneurial, justement. T'es 3 ou 4 par mission sur une durée courte. Ouais. Moi, j'ai aimé le côté entrepreneurial du conseil.
En mode projet, quoi.
En mode projet sur une durée courte. T'as un impact à délivrer en 2 mois. C'est court, tu vois. Et si t'as pas d'impact, tu peux pas dire c'est la faute de l'autre, c'est ta faute à toi. Donc ça, j'ai aimé. Par contre, ce que je voyais chez mes clients, je voulais pas faire ça. Et donc là, il y a un moment un peu décisif. Donc, on est en 2011. Il n'y a pas encore tout ce truc autour des startups en France, mais je me fais chasser par Groupon.
OK.
Je me fais chasser par Groupon et en fait, le pitch en 5 minutes au téléphone, je me souviens très bien. Je me souviens très bien où j'étais assis. Enfin, je me souviens très bien. Je visais le truc de la RH qui m'appelle. Et je dis, mais en fait, ouais, ce truc, ouais. En fait, ils avaient été créés 2 ans avant, croissance de dingue. Enfin, je suis tout de suite hyper attiré.
Ok.
Tout de suite hyper attiré.
Et à l'époque, tes potes, ils sont dans l'univers startup ou t'es loin?
Ouais. Non, en 2011, franchement, il y a personne dans l'univers startup en fait. Donc mes potes, ils sont en conseil, ils sont en banque. Certains sont dans des groupes plus ou moins gros, taille moyenne ou gros groupe, mais je crois que j'ai pas une seule personne dans l'univers startup.
Il y a peu d'entrepreneurs, quoi.
Il y a très peu d'entrepreneurs. C'est le tout début en fait, 2011, de ce côté un peu startup, levée de fonds, etc. Enfin, il n'y avait que dalle.
Okay.
Hein, donc,
okay.
Voilà. Et donc là, je rentre chez Groupon. Donc, je suis pas resté longtemps parce que la culture d'entreprise était vraiment spéciale. Mais, je mets ce pied dans, ce monde start-up où, en fait, on te dit, bah, En fait, t'es owner, t'as un gros objectif dans une durée courte et puis challenge quoi, faut y aller en fait. Et c'est pas une question de process, c'est pas une question de c'est les autres qui vont faire, c'est toi qui fais, tu dois y aller et tu dois. Et moi j'ai un côté très sportif aussi, tu vois. Et ce truc de challenge en fait où on me dit dans les 3 prochains mois tu dois faire ça ou dans les 3 prochains jours tu dois faire ça j'adore en fait. Et donc j'ai tout de suite goûté à ça et c'est ça qui m'a mis un pied dans le monde. Dans le monde des startups et ensuite les dernières années de ma carrière.
Et le rôle que tu prends chez Groupon, c'est sur quel sujet?
C'était un rôle de city manager. Donc j'étais city manager dans le nord de la France.
OK.
Donc je passais mes journées à Lille, Valenciennes, Lens. Et j'avais une équipe d'une douzaine de personnes, 10 commerciaux et 2 marketeurs.
Waouh.
Et en fait, je devais faire, je me suis dit, je devais
Tu
faire
devais
4 millions.
déployer deux
Premier mois, j'arrive, je dois faire 4 millions de volume d'affaires sur le mois. La ville avait déjà été ouverte, c'était le début, puis on devait faire 4 millions de volume d'affaires, et Groupon, c'était une machine de guerre, quoi. C'était une machine de guerre. Bon, ils se sont un peu auto-détruits eux-mêmes, mais ouais, enfin, je pense que là, je suis rentré dans le grand bain direct, quoi.
Ok, super. Et donc, côté culture, ouais, tu disais que ça fitait pas. Pourquoi?
Je sais pas si culture, c'est le bon mot, c'est plus ce qui m'a gêné chez Groupon, en fait, on savait pas trop pourquoi on faisait ce qu'on faisait. Tu vois,
D'accord.
la boîte, tu sais pas trop pourquoi elle existait, en fait,
D'accord, il n'y a pas de
fondamentalement.
mission en tant que telle.
Et en tant que tel, ils pouvaient en avoir une super. Enfin, officiellement, la mission, c'était aider le petit commerce à communiquer à grande échelle. Parce que tu vois, un petit coiffeur, il n'y a pas faire une campagne dans le métro, il n'y a pas faire une campagne à la télé. Et donc, en fait, c'était un super moyen de permettre à un petit commerçant d'accéder à une grosse audience. Et bon, je vais pas rentrer dans tout le temps, mais tu sais, ils payaient qu'en fonction du nombre de coupons qui étaient vendus, donc c'était qu'en coût variable, il n'y avait pas de coût fixe. Donc en fait, c'était accessible. Donc il y avait un super truc, une super mission à développer. Mais la façon dont on le faisait, en fait, moi, mon job, c'était tous les jours, il fallait que je recrée un deal sur la ville de Lille. Et donc, ma target, elle était au jour d'après. C'est-à-dire qu'on me disait, demain, combien tu vas faire de ventes? Et donc en fait, typiquement, on était complètement incentivés à ce que le coiffeur du coin de la rue, on fasse exploser ses ventes sur Groupon, que ça soit complètement ingérable pour lui dans les 3 mois à venir de gérer le flux de clients. Et 3 mois après, on retournait le voir et en fait, il nous disait, mais Groupon, plus jamais.
Ah oui.
Tu vois? Parce que fondamentalement, je pense qu'il n'y avait pas, la boîte ne savait pas trop pourquoi elle existait, mais elle était surtout là en fait pour générer un max de cash le lendemain. Et en fait, elle n'a pas réussi à faire coexister les deux, tu vois, l'objectif de croissance très fort à court terme et en même temps, pourquoi Fondamental existe et qu'est-ce que tu apportes à tes utilisateurs.
OK.
Et donc ça m'a vraiment gêné. Et puis après, en parallèle de ça, anecdote assez marrante, qui est qu'en fait, le jour où je commence chez Groupon, il y a un de mes anciens managers dans le conseil qui m'appelle, je crois un quart d'heure après que je commence chez Groupon, et qui me dit, écoute, je pars aussi du cab de conseil et je vais monter les bureaux français d'une boîte qui s'appelle Airbnb. C'était 2011, fin 2011. Donc Airbnb pas du tout connu en France. Il se trouve que moi, l'été d'avant, j'avais fait un voyage avec des amis à Barcelone et on avait loué Airbnb. Donc j'avais trouvé ça génial. Et donc il me dit, écoute, voilà, moi je recrute une équipe en France. J'avais adoré bosser avec toi. Est-ce que tu veux venir? Donc là, je lui dis, bah, attends, j'ai commencé un quart d'heure chez Groupon. Donc laisse-moi un peu le temps. Mais on s'est revus, etc. Et donc j'ai vite compris que mon avenir était beaucoup plus chez Airbnb que chez Groupon.
Et attends, chez Groupon, tu apprends quoi en fait?
Chez Groupon, j'y apprends vraiment cette notion d'ownership, quoi. Cette notion d'ownership de, en fait, un, enfin, deux trucs. Un, ownership et deux, l'urgence. En fait,
D'accord.
l'urgence de la croissance. Donc, l'ownership, c'est, en fait, tu vois, on avait 3 calls par jour, avec tous les city managers. Et donc, le CEO France, à chacun d'entre nous, il disait, c'est quoi ton deal demain? Combien tu vas faire de chiffre d'affaires? 3 fois par jour. À 8 h, à midi et à 18 h le soir.
Wow.
Et ce truc-là, en fait, donc, c'est ce que je disais avant, il y a des côtés négats à ce truc-là. Mais par contre, ça t'apprend l'énergie.
Et c'est ta première urgence.
Et ça t'apprend l'urgence de la croissance. C'est pas après-demain, c'est demain. Et c'est la seule boîte que j'ai vue qui avait des targets journalières, quoi. Ça, c'est assez impressionnant. Donc, j'apprends ça. J'apprends le management parce que je suis mis dans le grand bain. Du jour au lendemain, je manage 12 personnes et le recrutement. Voilà, donc j'apprends tout ça, mais j'apprends de façon accélérée parce que encore une fois, je reste très peu de temps. Je reste moins de 6 mois, je crois 5 mois. Mais ouais, mais en fait, c'était très court, mais très formateur. Tu vois, a posteriori, je me dis, je suis vraiment content d'avoir cette expérience-là, même très courte. Et Ça m'a beaucoup appris, ouais.
Et donc au bout de 6 mois, tu rappelles ton pote?
Ouais, on s'est parlé plusieurs fois pendant les 6 mois, ouais.
Ok. Et lui,
Et
entre-temps, il a fait quoi dans Airbnb? Il a commencé
donc
à se faire.
lui, il monte les bureaux parisiens. C'est le moment où Airbnb vient de faire sa série B. Ils avaient levé 110 millions
Ok.
pour gagner l'Europe. Donc ils ouvrent en un an 10 bureaux en Europe. Donc c'était des bureaux qui étaient des bureaux marketing et commerciaux, plus au début customer experience. Et moi, ils me recrutent en fait comme sur un poste de bras droit assez transversal. Très honnêtement, la job desk est pas très très précise au début, mais peu importe. Je rentre là, le choix que j'ai fait, c'est la boîte. Je suis rentré dans une boîte en me disant cette boîte, c'est the next big thing. Et j'avais passé le dernier tour des entretiens à San Francisco. Et en fait, quand t'es arrivé aussi, la boîte n'était pas très grande. Il y avait 200 salariés à l'époque. Hein.
Ah ouais.
Quand je suis rentré, c'est fin début 2012. Donc il y a 200 salariés dans la boîte.
Il y a quoi? Il y a les US qui sont ouverts, il y a l'Amérique latine, pas
En
n'importe.
fait, Airbnb Day One, c'est global. Ça, dès le premier jour en
Oui.
2008, tu peux les utiliser de partout dans le monde. Mais en termes de bureaux, ils avaient les US et puis ils venaient d'ouvrir quelques bureaux en Europe.
OK.
Et donc moi, je fais mon dernier tour à San Francisco et là, ouais,
Ça
ça
te
me
chauffe.
bluffe, quoi, tu vois. Et je passais une demi-heure avec Brian Chesky et t'en ressens un peu transformé quand même. Et tu te dis, enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti à ce moment-là que c'était l'opportunité de ma vie, quoi. Que je n'allais pas en avoir 50 des opportunités comme ça. Donc je rentre pour un poste de bras droit, encore une fois, pas très bien défini, mais peu importe. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je donne très souvent, c'est dans les startups, choisissez vos boîtes avant de choisir votre job. Super important. La boîte, ça changera pas. Le
D'accord.
job pourra changer. C'est-à-dire, c'est vous qui allez faire évoluer votre job en réalité. Donc, regardez pas les job desks. Regardez les descriptions des boîtes. Allez sur le site de la boîte. Écoutez les interviews des fondateurs. C'est beaucoup plus important. Donc voilà. Et au bout de, donc je fais ce job. Honnêtement, la première année, franchement, j'avais pas beaucoup de valeur dans la boîte parce que le job est pas très bien défini. Ils viennent d'ouvrir 10 bureaux en Europe. C'est pas très bien. C'est pas très clair qui fait quoi encore, etc.
Mais t'as quand même la couverture de la France ou il y a une zone géographique à, enfin, comme c'est pas bien défini, mais t'as quand même un,
Ouais.
c'est quoi ton daily à ce moment-là?
Sur cette première année, mon daily, c'est très analytique. Donc
OK.
en fait, toi c'est un poste de bras droit, j'ai pas d'équipe. C'est quoi le plan? Comment on gagne la France? Comment on gagne les villes? Comment on gagne les zones de vacances en France? La concurrence, voilà,
D'accord.
il y a toute cette partie-là.
C'est la strade, donc.
C'est de la strat. Il y a une deuxième partie qui est du biz dev au sens partenariat ou marketing du terme où je teste plein de leviers d'acquisition. Je teste des canaux marketing, je teste du partenariat, des choses comme ça. Et c'est essentiellement ça. Quand je dis un an, ça a peut-être duré 9 mois en réalité.
OK.
Et ensuite, au bout de 9 mois, donc Olivier qui m'avait recruté devient patron de l'Europe. Et moi, à ce moment-là, je prends le poste de country manager pour la France.
D'accord, donc ça c'est plus clair.
Voilà, donc là c'est plus clair, c'est très clair. Et donc là, sur les 3 années d'après, j'ai la responsabilité de la croissance d'Airbnb en France, avec plein de modèles d'orga, des gens qui me reportent, qui me reportent pas. Enfin, on a changé 50 fois d'orga. Et là, je vis un truc quand même assez extraordinaire. On fait x40 en 4 ans, dans une boîte de dingue, avec une exposition médiatique énormissime. C'est-à-dire qu'en 2012, personne nous connaît. Et 2 ans après, mon job est devenu de plus en plus un job de représentation. C'est-à-dire que ma valeur ajoutée, c'était les médias et le lobbying. Je faisais ça. À la fin, 80% de mon temps, c'était du média et du lobbying. Et donc, au bout d'un moment, je passe mes journées, tu vois, j'ai des auditions à l'Assemblée nationale,
Pour expliquer le modèle,
pour
pour
expliquer le
rassurer.
modèle, etc. Beaucoup de sujets avec les lobbies hôteliers, évidemment, beaucoup dans la presse, etc. Et donc là, ouais, c'est un peu tu vois, la machine à laver pendant 4 ans, mais j'ai adoré quoi. Et dans une boîte qui, pour le coup, tu vois, contrairement à ce que je disais avant sur Groupon, j'ai trouvé avait
Une mission.
une mission extrêmement claire. Donc là, j'ai réalisé que c'était super important pour moi. Une mission extrêmement claire. On savait pourquoi on existait. Et en fait, c'est pas mission ou croissance en fait. Moi, je suis convaincu que mission et croissance, ça va ensemble en réalité. C'était une mission qui est forte. En fait, mission, ça veut dire quoi? Mission, ça veut dire que tu as beaucoup d'impact pour tes users. Si tu as beaucoup d'impact pour tes users, bah en fait, tu crois.
Bien sûr.
Je trouve que ça a été vraiment un exemple, hein, Airbnb, de faire coïncider une mission forte, avoir beaucoup d'impact pour ses utilisateurs et un modèle de croissance super pérenne.
Et dans ta vie perso, là, t'en es, puisque là, tu, donc ça fait entre finalement le cabinet de conseil et Airbnb, là, t'es en mode sprint.
Ouais.
T'en es où sur le plan perso? T'arrives à avoir une vie perso ou t'es en mode home
Ouais,
life?
si, non, au contraire, moi j'arrive à une vie perso. Alors, dire un truc que j'ai pas dit, c'est en fait entre HEC et le conseil, j'ai fait 6 mois de tour du monde.
Ah, c'est bien ça.
Ouais, je suis parti avec un ami.
Avant ou après?
Après mon diplôme, juste après mon
D'accord.
diplôme
Okay.
et avant de commencer dans le conseil, entre juin et janvier, j'ai fait 6 mois j'ai pris un billet de tour du monde avec un ami. On a fait 14 pays en 6 mois.
Wow.
Ça, c'était génial. Encore une fois, il y a un peu ce thème de j'aime bien sortir de ma zone de confort. Tu vois, je sais, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais t'es malade. En plus, c'est 2008. On se retrouve en plein milieu, octobre 2008, la crise. Moi, je me souviens, j'étais au Pérou, je crois, avec une barbe comme ça, etc. Et mes parents qui m'appellent, qui me disent, Nico, t'as vérifié quand même que t'avais pas perdu ton job. Et en fait, ouais, bah, en fait, pas grave, quoi. Tu vois, je sortais de ma zone de confort, je prenais un petit risque. Et au final, c'est des expériences uniques dans ta vie, quoi. Donc, j'ai adoré. Et puis après, sur ma vie perso, bah, en fait, je rencontre celle qui est actuellement ma femme 2 mois après être rentré de mon tour du monde.
OK.
Et on s'est marié en 2014.
Nice.
Donc, tu vois, en plein au milieu de mes années Airbnb. Non, enfin, franchement, ça n'a pas du tout été un problème pour ma vie perso, quoi.
Super, super,
Pas
super.
du tout.
Et donc ces 4 ans, ça se solde comment? Pourquoi tu pars? Qu'est-ce qui
Ouais.
te donne envie de voir autre chose? Est-ce que ça continue à
Ouais, je
croître?
pense qu'il y a un peu, ça continue à croître. Ça continue à croître. Je pense que c'est, alors, à titre perso, on voulait rester en France avec ma femme à ce moment-là. Et puis, en fait, j'arrive à un moment où, bah, je vois pas trop quel est mon prochain challenge. En fait, j'apprends moins, en fait, je crois. J'apprends moins. Et,
Mais il n'y a pas des opportunités plus hautes avec Olivier, là, il gravite pas sur des sphères un peu plus importantes et.
Ouais, bah à ce moment-là, bah après il est parti, mais à ce moment-là il était accroché à son
OK.
job
OK.
de directeur Europe, hein, il n'y avait pas de truc. Et puis non, j'ai essayé. C'est le moment où Airbnb lance Airbnb Experience, tu sais, où tu peux réserver des
Ouais.
expériences sur Airbnb maintenant. Donc j'ai essayé de créer un rôle depuis la France pour ce truc, cette partie-là. Ça s'est pas fait, honnêtement, pour de bonnes raisons d'ailleurs. Et tout était assez centralisé aux US, donc ça s'est pas fait. Et là, je me suis dit, bah en fait, ouais, je peux rester, je gagne bien ma vie, je veste des BSPCE, financièrement j'ai intérêt à rester, mais en fait, ouais, je suis un peu dans ma zone de confort, j'apprends plus et voilà. Et quand je commence à ressentir ces trucs-là, en général, c'est un peu le moment où je me dis, tiens. Et
Et t'as quel âge à ce moment?
donc là, on est en 2016, donc j'ai 31 ans
Ok.
à ce moment-là. Et puis, et tu vois, j'en rigole un peu à posteriori. Je crois que j'ai pas mal côtoyé Brian Chesky. Il y a un truc au fond de moi qui me dit pourquoi pas moi, quoi. Tu vois.
D'accord, il t'a tellement donné envie
Et
que
ouais.
tu t'es projeté, quoi.
Puis il y a un truc aussi. Je me suis dit en fait, il y a un truc au fond de moi aussi. Je me dis, j'en ai un peu marre de voir ce modèle de réussite globale uniquement depuis les US. Pourquoi on n'arrive pas en France, en Europe, il y a des exceptions, mais toi, tu prends le top 40 des boîtes américaines, il y en a 20 qui ont été créées il y a moins de 20 ans. Tu prends le CAC 40 en France, il n'y en a pas beaucoup qui ont été créés il y a moins de 20 ans, quoi. Donc, voilà, je pars 31 ans, fleur au fusil, en me disant
C'est mon tour.
c'est mon tour, avec aucune idée.
Ok.
Aucune idée, aucune
Ah,
idée.
tu poses ta dème sans ça,
Je
sans ça.
pose ma dème, je trouve mon successeur, ça c'était important pour moi. Et je pars et ouais, aucune idée. Et des sujets à explorer. J'aime bien le tourisme, donc j'explore le tourisme. Je regarde deux, trois autres trucs, mais voilà. Je file en aiguille, je finis par me dire, OK, bon, j'ai pas d'idée, faut que je rencontre du monde, faut que je, voilà. Donc, en fait, mon premier fils naît à ce moment-là, je fais un petit break aussi, de 2 mois. Et je finis par faire le wagon.
Ouais.
Pure curiosité, tu
Ouais, je
vois.
savais pas que tu avais fait ça.
Ouais, je fais le wagon, donc c'est une école de code. Parce que, voilà, je commence à, tu vois, je navigue dans des boîtes tech, et en fait, je me dis, j'ai envie de voir comment ça fonctionne un peu, quoi. Donc, je fais le wagon. Et je rencontre quelqu'un au wagon avec qui on décide d'aller monter une boîte derrière. Et en fait, on monte une boîte qu'on veut être l'équivalent d'Airbnb, mais sur des séjours de moyenne durée. En fait, le marché du 1 mois, 1 an. Donc, c'est pas le marché de se loger qui est plutôt, tu vois, le marché long terme. C'est pas le marché d'Airbnb qui est le très court terme. C'est le marché du 1 mois, 1 an qui, en fait, pour plein de raisons, est assez mal couvert.
Ouais. C'est quoi cette boîte espagnole là qui s'est lancée entre-temps?
Ouais. Ils sont vachement sur le truc étudiant.
Ouais, d'ailleurs, c'est un ancien d'Airbnb aussi.
Ouais, exactement. J'ai un trou de mémoire.
Ouais, Stan,
c'est très bien.
Stan,
ouais, Stan, je le connais très bien.
Ouais.
Ah, je pense à une autre. Stan, je vois très bien qui c'est. Ouais. Donc lui, c'est plutôt sur du haut de gamme, de mémoire.
Oui.
Et t'as aussi une boîte qui fait le logement étudiant.
Ouais, je pense à le
ouais, bon, j'ai oublié leur nom. Mais il y en a plusieurs. Et c'est un très gros segment, en fait. Bon, je passe pas trop de temps là-dessus, mais en gros, le problème de ce segment-là, c'est qu'en fait, la vraie valeur ajoutée que t'apportes à un propriétaire, c'est de prendre ses clés et de gérer l'appart. Et donc, en fait, tu deviens une agence de gestion locative et tu gères
ouais.
les fuites d'eau et les machins. Et y a pas, je pense, il n'y a pas de place pour une boîte tech, en fait.
D'accord. C'est une agence outillée, quoi, au mieux.
Ouais, le vrai pain, c'est, en fait, je suis propriétaire, je me donne les clés, je m'occupe de rien. Et en fait, tu deviens agence de gestion locative.
OK.
Parce que trouver un locataire pour 6 mois, c'est pas très compliqué, en réalité, pour un propriétaire. Le vrai problème, c'est...
Les entrées sorties.
C'est les entrées sorties, puis la gestion au quotidien, en fait. Quelqu'un qui vient 3 mois dans un appart, ou un consultant qui vient 3 mois dans un appart, il veut pas changer les ampoules, en fait, en réalité.
D'accord.
Donc, ouais. Bref. Donc, je fais ce truc-là. Et puis, en fait, donc, du coup, on fait un très bon début business, en fait. Mais au bout de 6 mois, du coup, on arrête à cause de ça. Parce qu'on se dit, en fait, on peut pas être une agence de gestion locative, quoi. On avait même pris notre carte d'agence immobilière, tu vois. Donc, et donc, on arrête. Et là, je prends un peu de recul. Et en fait, tout ce que je viens de t'expliquer juste avant, c'est à ce moment-là, je le formalise. Je me dis, en fait, un, je veux être dans une boîte dans laquelle il y a une mission. Et là, dans le truc qu'on construisait, il n'y avait pas de mission. Deux, le côté tech, c'est super important pour moi parce que c'est ça qui fait que c'est scalable et que on fait de la croissance rapide. Et trois, je réalise aussi à ce moment-là que je pense que je suis meilleur et que je m'éclate plus à aider des gens qui ont créé leur boîte à accélérer plutôt que d'être... Je pense pas être entrepreneur moi-même, en réalité.
Entrepreneur, mais pas entrepreneur.
Entrepreneur, mais pas entrepreneur, exactement. Et donc là, pendant 3-4 mois, je cherche du boulot. Et je cherche dans des secteurs dans lesquels je me dis là il peut y avoir des missions intéressantes. Et donc je cherchais en santé, je cherchais dans l'éducation et je cherchais beaucoup en RH. Parce que je trouve que fondamentalement quand on regarde autour de nous, alors qu'on est dans un monde où le marché du travail est très liquide, t'as quand même beaucoup de gens qui s'épanouissent pas dans leur boulot globalement. Et donc là je me dis franchement il y a des trucs à faire et des missions super intéressantes. Et on me met en relation avec Florent et Jean. Et je suis tout de suite conquis par la boîte en fait. J'ai adoré la mission de la boîte, j'ai adoré le marché. Je me suis dit le marché il est énorme en réalité. Et j'ai adoré le fait que tous les deux dès le début avaient pensé la boîte de manière hyper scalable et de se dire on n'est pas une boîte pour faire des extras dans la restauration, mais on a un produit qui va être réplicable sur d'autres industries, dans d'autres pays, etc. Et puis après le fit humain qui est super important. Voilà.
Et à ce moment-là, tu rencontres d'autres boîtes, t'hésites
Ouais, j'ai vu d'autres boîtes. J'ai vu d'autres boîtes. J'en ai vu une qui est dans une de tes 3 premières saisons.
Oui.
C'est un choix important. J'hésite, je sais pas, en fait. Non, en fait, en réalité, quand j'ai vu Flo et Jean, j'ai pas hésité, en fait, non. J'étais assez convaincu. J'ai hésité sur des boîtes que j'ai vues avant. J'ai failli rejoindre des boîtes que j'ai vues avant. Et quand j'ai vu Flo et Jean, non, j'ai pas hésité.
Et puis surtout, de mémoire, ils ont eu l'intelligence de te laisser un vrai espace, quoi. C'est que,
ouais.
Je pense que ça, c'était un peu clé.
Dans, ouais.
Parce qu'un profil senior qui arrive comme ça dans une boîte, alors je sais plus à quel moment on est là. La boîte, elle a fait quoi? Elle a fait une série A.
Non, on est avant juste avant la série.
Juste avant la série.
Ouais. Juste avant la série. On est juste avant la série A, on se parle tous les deux à ce moment-là, tu
ouais.
s'appelles.
Ouais.
Et ça a joué en fait que la boîte, enfin ça n'a pas été le critère premier que la boîte soit early stage, mais effectivement comme la boîte était encore assez early stage, j'ai eu une place assez naturelle. En plus à la base il y avait 3 cofondateurs chez Brigade,
ouais.
Un qui est parti au bout d'un an. Et je me considère pas du tout comme cofondateur. Je déteste le terme de lead cofounder, ça veut rien dire. C'est-à-dire les deux mots sont en fait opposés. Soit t'es cofounder, soit tu l'es pas, quoi. Mais je suis pas cofondateur et ça c'était très clair dès le début avec Flo et Jean. Je leur ai dit tout ce que vous devez incarner en tant que fondateur, moi je dois pas être dedans. Donc quand vous parlez à la boîte, par exemple, sur des sujets corporate, etc., je dois pas être dedans. Mais d'un point de vue business, en revanche, d'un point de vue opérationnel. Il y avait une place qui était libre et une place importante.
Ouais.
Et Flo a été, je trouve, très fort pour effectivement en fait me laisser beaucoup d'espace dans la boîte,
ouais.
Et me laisser m'épanouir dans la boîte. Je pense que tu vois, rétrospectivement, il y a plein de trucs que j'ai fait au début qu'il aurait pas fait. J'ai fait des conneries comme tout le monde quand t'arrives dans une boîte, mais il m'a un peu laissé apprendre à nager et ça j'ai beaucoup apprécié. Ouais.
Et donc là, ton job à ce moment-là, c'est plutôt un rôle autour des opérations ou c'est déjà un sujet sales ou tu chapeautes déjà plein de trucs
Non, donc dès le début, alors mon titre a changé, à l'époque on appelait ça COO,
Ouais.
mais en fait j'avais dès le début sales, marketing et customer experience. Et donc là récemment on a fait une, il y a 6 mois on a réorganisé ça, et la partie customer experience est repassée sous Jean. Elle est en lien avec le produit et customer experience ensemble, ce qui fait plein de sens. Bon, on pourra en parler si tu veux, mais je pense que tu dois peut-être interviewer des gens à la CX ou au produit chez nous. Mais par contre, la partie sales et marketing, ouais, m'a toujours reporté dans la boîte. Ouais, m'a toujours
D'accord.
reporté dans la
Et
boîte.
ça ressemble à quoi les 12 premiers mois où finalement là tu passes finalement sur un sujet de staffing avec finalement d'un côté les talents, de l'autre côté l'hospitality.
Ouais.
Comment tu rentres dans ce business-là pour bien comprendre en fait les besoins de tes clients? Est-ce que tu te tapes tout le funnel
Ouais.
comment ça?
Ouais, non, c'est une très bonne question. Alors, déjà, il y a un premier truc, c'est que je suis pas complètement en terrain inconnu parce que, en fait, c'est un business de plateforme comme Airbnb. Donc, en fait, c'est un business, on n'est pas un software, on n'est pas un SaaS, c'est un business de plateforme avec deux audiences.
Ouais.
Et donc, chez nous, les talents et les établissements. Donc, je suis pas complètement perdu. Ça m'aide beaucoup, je pense, d'avoir cette expérience de plateforme.
Tout ça, c'est les quoi? C'est les réflexes de comment nourrir l'un avec l'autre,
Exactement.
comment
Donc
ça?
toi, typiquement, moi, un des premiers trucs que j'ai vu en arrivant, c'est en fait, vous regardez pas votre taux de tension. Vous regardez jamais la tension entre l'offre et la demande. Truc essentiel dans une plateforme. Donc ça, on le met en place, par exemple. Maintenant, tu vois, on drive nos targets d'acquisition des deux côtés en fonction du taux de tension.
D'accord.
Et parce que sinon, effectivement, tu prends le risque de dire, bah, j'augmente vachement l'offre et puis en fait, j'augmente pas la demande, typiquement. Donc ça, c'est le premier truc qui fait que je suis pas complètement en terrain inconnu. Ensuite, je pense que ma plus grosse courbe d'apprentissage, c'est que en fait, Airbnb c'était B2C et que Brigade c'est B2C d'un côté, mais B2B de l'autre. Ma courbe d'apprentissage, c'est de comprendre qu'on a plusieurs types de business qui nous utilisent. Il y a le restaurant du coin de la rue, il y a des grands groupes de restauration collective, il y a des groupes de franchisés, maintenant il y a la santé, c'est encore différent. Et donc, tu as un truc qui est super important, en fait, qui est de comprendre comment tu vends à chacune de tes cibles. Et donc ça a été, je pense, ma courbe d'apprentissage la plus importante sur la première année. Comment on vend à un restaurateur? Quels sont les étapes du cycle de vente? Est-ce qu'il faut faire de l'account management ou pas? Ok, super, on a fait ça. Comment est-ce qu'on fait avec des grands groupes de restauration collective? Comment est-ce qu'on fait avec des groupes de taille moyenne dans la restauration? Ça a été mon plus gros apprentissage. Et d'ailleurs, je pense que c'était le plus gros apprentissage de la boîte, en fait, en réalité. En tout
Oui.
cas, de mes équipes, sur ces dernières années. Parce que on avait tous un ADN SMB. On avait tous un ADN, t'as ceux, les purs produits Brigade qui avaient commencé par le SMB. Moi, je venais de chez Airbnb, donc en fait, c'est du SMB, ou même du B2C. Et jusqu'à très peu, on avait très peu de gens dans la boîte qui venaient d'un monde de grands comptes. Donc ça a été je pense, l'apprentissage principal. Ouais.
D'accord. Et donc, si on parle un petit peu de la période confinement, toi, d'ailleurs, où est-ce que tu le fais? Et quand on a tout d'un coup 100% de la GMV qui
Ouais.
disparaît et qu'on est en charge du revenu, tout
Ouais.
le monde se regarde en chien de faïence et on se retourne
Ouais.
vers toi, Nicolas, en disant, mais OK, c'est quoi le plan?
Qu'est-ce qu'on peut faire, ouais. Écoute, c'est un moment. On en parle souvent, en fait, entre nous. En fait, ce 15 mars 2020, en fait, je pense que c'est un moment fondateur de la boîte, en fait. C'est un moment fondateur de la boîte et je sais pas si la boîte serait là où elle est aujourd'hui. Je sais pas si on aurait fait notre série B il y a 6 mois s'il n'y avait pas eu le Covid. Je ne suis pas convaincu, j'en suis pas sûr. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Enfin, dire où je suis confiné, moi j'ai de la chance. Mes parents ont une maison dans le sud de la Bretagne et donc je suis confiné dans une maison avec un jardin. Je me souviens de faire des visios avec des amis qui étaient à Paris dans un appart avec leurs enfants. Et moi, j'étais lunettes de soleil au nez à faire un barbecue avec une bière à la main, donc j'étais pas trop mal. J'ai eu beaucoup de chance sur mon contexte de confinement. Sur Brigade, ouais, bah nous, tu vois, à l'époque, on est que dans la restauration, et donc en fait, du jour au lendemain, on perd effectivement 90% de notre chiffre d'affaires, mais du jour au lendemain. Et le 10% restant étant des cantines dans des établissements sanitaires et médico-sociaux. Donc, c'est des hôpitaux, des EHPAD hein, qui ont des cantines et qui nous utilisent pour des postes en cuisine. Et donc, on avait un petit pied dans la santé. Et là, en fait, il se passe plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on se met en mode urgence pendant 5 jours et on a pris des mesures ultra fortes et qui nous ont prouvé à nous-mêmes qu'on était capable, en fait, de prendre des mesures assez radicales et assez fortes très rapidement. Et ça, on l'a appris et depuis, en fait, on sait qu'on sait le faire, tu vois. Donc, à chaque fois qu'on a une situation compliquée, on se dit, mais en fait, on sait prendre des décisions rapides, donc faisons-le, quoi. Exemple, on avait dit, premier réflexe qu'on a eu, c'est il faut qu'on protège les talents qui dépendent le plus de nous. C'est-à-dire celui qui fait 2 missions par mois, et il a sans doute un job à côté, le chômage, etc. Lui, ça va, il n'a pas trop de problèmes. Celui qui est à 100% avec une brigade, bah en fait, il fait quoi les 15 le prochain mois, il fait quoi et donc, les 10 missions, les 10% de missions qui nous restaient, elles étaient envoyées uniquement à ces talents-là.
D'accord.
Premier point. Et deuxième point, on a anticipé le fonds de solidarité de l'État. Et pour les quelques talents qui étaient les plus actifs sur la plateforme, en fait, on a contribué à combler le gap entre ce qu'ils gagnaient avant sur Brigade et ce qu'ils ont gagné pendant 30 jours, pendant le mois qui a suivi le début du confinement, avant qu'il y ait le fonds de solidarité de l'État. Et ça, hyper fort, tu vois. Donc, un peu, on a eu 2-3 autres mesures comme ça vis-à-vis de nos salariés, etc. Donc, un peu les mesures d'urgence. Ça, c'est le premier point. Et après, le deuxième point, en fait, c'est que ultra rapidement, on se dit, en fait, on va pas se tourner les pouces, quoi. On était 80 dans la boîte à l'époque, on va pas se tourner les pouces. Et donc, on va faire 2 choses. Un, on va bosser, on va profiter pour bosser sur des trucs de fond structurels qui étaient pas optimisés.
Donc, tous les sujets de la tech.
La tech, le produit, alors, ils ont délivré une énorme roadmap pendant ce temps-là.
Grisham nous a parlé hier de tout ce qu'ils ont réalisé, c'est hallucinant,
ouais.
En fait.
Ouais. Pendant le confinement, ouais, carrément. Et moi, sur la partie sales, typiquement, tu vois, on avait un bureau à Londres à ce moment-là. On avait ouvert le UK avant. Et, mais en fait, à chaque fois que j'y allais, je me disais, mais en fait, j'ai une équipe d'inside sales qui fait que du téléphone à Londres. J'ai 10 personnes à Londres qui font du téléphone. Et du coup, j'ai des gens à Londres, des gens à Paris qui font le même job. Du coup, ils réinventent un peu la roue. Ils apprennent pas les uns des autres, etc., etc. Donc, je me suis dit, en fait, on va garder le UK. Après le Covid, on va repartir fort sur le UK, mais on le fera pas depuis Londres, on le fera depuis Paris. Donc maintenant, on a une équipe de sales anglophones basée à Paris, ce qui fait que, en fait, ça marche beaucoup mieux parce que t'as pas à réinventer, enfin, tu ramènes pas le playbook, quoi. Ils sont dans la même équipe et donc il y a un head of sales qui a des équipes France, des équipes UK basées à Paris. Donc on fait des changements comme ça assez radicaux. Et le dernier point, c'est en fait, on se dit, donc dès avril, on se dit, mais en fait, on a 10%. En fait, les établissements qui nous utilisaient dans la santé nous disent, la cuisine, c'est génial, mais en fait, nous, ce qu'il nous faut, c'est les aides-soignantes, les infirmières. Et est-ce que vous pouvez nous aider là-dessus? Et donc, moi, je fais 80 calls en 2-3 semaines, là, avec à la fois des talents, donc des infirmiers, des aides-soignantes, et puis de l'autre côté, des établissements pour comprendre. Et au bout de 3 semaines, j'ai dit, mais en fait, il faut qu'on y aille, quoi. Il n'y a pas de différence, en fait, en réalité. Il n'y a pas de différence majeure. Et donc, ce qu'on sait faire pour un restaurant, on saura le faire pour un EHPAD qui a besoin d'une infirmière. Et donc on lance, je crois que la première mission en santé, on la lance début juin 2020, donc 2 mois et demi après le début du Covid. Et aujourd'hui, tu vois, ça représente 40% de notre volume d'affaires. Donc ouais, décision majeure et qui en plus a eu un avantage énorme, parce qu'en fait, elle a prouvé que notre marché, c'était pas la restauration, mais que notre marché, c'était, il pouvait s'étendre à plein d'autres catégories, à plein d'autres métiers. Si on a fait la santé, bah demain on pourra faire le BTP, des métiers industriels, le retail, etc. Donc tout d'un coup, en fait, notre marché il fait x10, en fait.
Ouais, et puis la profondeur de sujet, enfin sur la partie santé, c'est stratosphérique.
Ouais, on est qu'au début là, exactement. Donc tu vois, c'est ce moment finalement où quelque part on a pu sortir la tête de l'eau, parce que alors, évidemment, je recommande à personne de perdre 90% de son chiffre d'affaires du jour au lendemain, ça fait un peu mal. Mais en même temps, ça a été fondateur et je pense qu'à la fois sur bosser sur notre produit, bosser sur notre modèle opérationnel et puis trouver ton prochain levier de croissance, bah en fait, ouais, ça a été fondateur. Et dernier point sur la période Covid, en fait, le top 10 de la boîte est resté, il n'y a pas eu un seul départ pendant les 18 mois de Covid. Et ça, pourquoi? C'est parce que fondamentalement, je reviens à la mission, en fait, on était tous hyper attachés à la mission de la boîte. Donc, on a tous baissé nos salaires, on a tous perdu de l'argent, on a tous eu 10 000 occasions d'aller faire autre chose. Et en fait, on est tous restés parce que fondamentalement, on était convaincus par la mission de la boîte et qu'on perdait 18 mois, mais que c'était pas grave, quoi. Et donc, je pense aussi avoir une mission forte, bah, en fait, c'est super important même pour la rétention de tes salariés.
La rétention d'être propre au talent.
Ouais, exactement.
Ouais, mais c'est vrai qu'effectivement, pendant cette période, pour avoir vu beaucoup, beaucoup de boîtes du portefeuille de Serena, il y a quelques boîtes qui se sont révélées. Mmh. Brigade en fait partie. Pour se réinventer avec une résilience extraordinaire, où finalement, vous avez crafté un nouveau business avec tout l'opérationnel à gérer par ailleurs. Il faut quand même s'assurer que tout le monde va bien et faire qu'en fait la boîte continue à tourner, mais en fait en relancer un business, quoi.
Ouais.
Et ça de manière assez assez véloce, intelligente, et ça c'est aussi effectivement un signal assez incroyable de futur de potentiellement champion dans une industrie, parce qu'en fait tu te dis putain, si en fait t'as deux doigts de la mort, tu te réinventes et tout d'un coup tu deviens finalement tu lances un nouveau segment avec peu de moyens, parce qu'à l'époque tout est tendu, quoi, le cash est super tendu.
Non, on le fait clairement avec peu de moyens, ouais. Et ouais, mais moi j'ai beaucoup aimé cette période là en fait, a posteriori, tu vois, me dire ouais, je parlais de challenge tout à l'heure, même à titre perso, en fait, je me suis un peu fixé ce challenge, quoi. Je me suis dit, en fait, je vais pas attendre 18 mois que ça se passe, quoi. En fait, on a des problèmes de cash, et plein de problèmes, quoi. Mais en fait, on va se donner un challenge et puis on va le faire, quoi. Enfin, c'est ça qui est excitant, en fait, dans une startup. Sinon, tu poses pas dans une startup, en fait, en réalité.
Et toi, d'ailleurs, à titre perso, sur ton rôle, déjà, comment tu te nourris de boîtes un peu plus avancées, soit dans le Future of Work, je pense à Malte, je pense à d'autres boîtes. Comment tu arrives à level up en disant ok, bah très bien, je suis à cette phase là, on fait X millions de GMV par mois. Comment tu dis ok, il faut absolument que j'apprenne pour faire x10, bah c'est pas la même recette.
Ouais.
Comment toi tu de ton côté tu t'apprends et de l'autre côté les talents que tu manages, comment tu les pousses à être meilleurs et comment tu le, on a parlé un peu de avec Julia, donc je serais intéressé d'avoir ton son de cloche pour voir comment toi tu les drives et comment tu les challenges.
Ouais, c'est une très bonne question et c'est un des trucs les plus durs, hein, quand t'es un manager ou un leader. Moi, à titre perso, j'essaie de beaucoup écouter, beaucoup parler. Toi, typiquement, chez Serena, il y a le système de d'Ops Partner. Et donc, moi, j'ai été accompagné entre la série A et la série B par Jérôme Stewie, qui a été d'une aide énorme. Parce qu'en fait, il me challengeait, il m'apportait toujours des idées. Il me disait, mais tu fais ça comme ça, est-ce que tu pourrais le faire différemment, etc. Et donc, j'essaie, en fait, de je considère que moi, mon rôle, enfin, c'est à moi de m'ouvrir au maximum à des ressources externes. C'est pas à mes équipes de le faire, en fait. C'est à moi de le faire.
Ça fait partie de ton job.
Ça fait partie de mon job. C'est pas mon, tu vois, typiquement, parfois, tu sais, ça m'arrive, t'es tenté, quelqu'un te propose un truc, t'es tenté de forwarder à ton manager, à quelqu'un en dessous, à un de tes N-1, en disant, tiens, ça m'intéresse, vas-y, parle-lui. Mais en fait, non, il faut que tes équipes, elles soient focus. Toi, c'est ton job, en tant que leader, de t'ouvrir, de savoir, est-ce qu'on pourrait pas faire les choses différemment, etc., etc. Et ensuite, et d'aller piocher là-dedans les bonnes idées. Et ensuite, sur le drive des équipes, il y a un truc, moi, je trouve, qui est le plus important à notre stade de boîte, c'est l'ownership. En fait, il y a plein de façons d'arriver au but. Tu peux, quand tu donnes un goal, un objectif à quelqu'un, et en fait, il y a plein de façons d'y arriver. Et toi, tu peux penser que la façon A sera la meilleure, lui peut penser que la façon B sera la meilleure. Il faut se challenger. Mais moi, je trouve que le plus important, c'est l'ownership. Et donc moi, ce que j'attends en fait des managers qui me reportent, c'est que ils me disent, enfin c'est que je sente, ouais, ok, j'ai tel objectif,
mais c'est le mien.
C'est le mien, je vais y arriver en fait. Et d'ailleurs, toi, typiquement, bah c'est marrant parce que là, on est en train de fixer les objectifs pour Q3 en ce moment. En fait, finalement, il faut pas qu'ils écoutent ce que je dis parce que, mais finalement, le chiffre m'importe peu. Je caricature évidemment un petit peu, mais Le chiffre m'importe peu. Que ton objectif soit 10, 12, 15. En fait, ce qui m'importe, c'est que t'en aies pris un honneur, c'est que ce soit ton chiffre. C'est que toi, tu dises, ouais, en fait, c'est 12 et je vais faire 12. Et voilà comment je vais y arriver. Et, ça, pour moi, c'est le plus important. Donc, j'essaie vraiment de driver mes équipes comme ça. Ça c'est pas tout seul, hein. Ça veut dire que, en fait, il y a beaucoup de challenges. Je pense que je suis parfois un peu pénible parce que je rentre dans, ok, mais alors là, tu me dis, en bottom-up, ta target, tu me dis que ça va être 12, je comprends pas pourquoi. Vas-y, on va rentrer dans ton modèle, on va comprendre pourquoi.
Ouais, et donc, le challenge. Mais en mode groupon trois fois par jour ou en mode?
Non, en mode une fois par trimestre. Une fois par trimestre pour fixer les objectifs.
Okay.
Et par contre, quand
et
on
sur,
fait.
Et sur le follow-up?
Bah, et après, sur le follow-up, quand t'as du retard, là, pour le coup, j'attends, ça fait partie de leadership, c'est que j'attends de toi, okay. En fait, que tu viennes m'expliquer pourquoi t'as du retard. Et quel est le plan. Et faut pas me dire que c'est la faute des autres, quoi. Parce que les targets, c'est toi qui les as fixés. En fait, en réalité. Si je dis, tu vois, si la personne me, si en juin, la personne me dit, je ferai 12 en Q3, moi, je lui dis, non, tu vas faire 15. Puis après, il fait 12. Et moi, je lui dis, pourquoi t'as pas fait 12? Pourquoi t'as pas fait 15? Il va me dire, bah, non, moi, j'ai fait mon boulot, puis pour faire 15, en fait, c'est la faute de un tel. Ils ont pas fait leur boulot, ça m'aurait, s'ils l'avaient fait, j'aurais fait les 15, parce que c'est pas sa target. Si par contre, il me dit 12, moi, je vais faire 12. Et qu'après, il fait 11, bah, je veux dire, c'est toi qui as dit que tu ferais 12. Donc, pourquoi tu fais pas 12, quoi? Et pourquoi tu fais pas 12? Et puis, quel est le plan que tu mets en place pour y arriver? Comment je peux t'aider? Mais ça, je pense que c'est super important. L'ownership, c'est super important.
OK.
Et je trouve d'ailleurs, c'est marrant, on en parlait avec Flo plus tôt aujourd'hui. Je trouve qu'on est vraiment au stade de boîte, là. On a passé le stade des 150 personnes. On est vraiment au stade de boîte où faut faire attention à ça. En fait.
De le perdre?
Ouais, faut faire attention à pas le perdre parce que c'est le moment où tu peux un peu te réfugier derrière les process, derrière l'orga. C'est toujours la faute de l'orga, c'est toujours la faute des process qui sont pas les bons, etc. Et en fait, en réalité, le truc le plus important, c'est t'as une target et t'as l'ownership, quoi. En fait, chez Airbnb, il y avait vraiment cette culture-là. Je me souviens. Typiquement, en tant que country manager, j'avais l'ownership du chiffre d'affaires en France.
Qui était un des plus importants pour en Europe, donc c'était
ouais.
Ça marche bien.
Exactement. Et en fait, j'avais peu d'équipe en fait. Au début, beaucoup de gens me reportaient, et puis petit à petit, on a beaucoup fonctionnalisé. Donc le marketing a reporté au marketing central, etc., etc. Et en fait, toi, j'aurais pu dire, on n'a pas fait la target, c'est pas ma faute, c'est la faute du marketing. Bah non. En fait, moi, mon job, c'était de dire au milieu de l'année, en market, l'équipe market centralisée fait pas le bon truc pour la France. Parce que X, Y, Z, je sais pas quoi, ils ont pas compris la saisonnalité, peu importe la raison. Et c'était ça mon job, en fait. Mon job, c'était d'avoir l'ownership et après de trouver les bons leviers, qu'ils soient directement sous ma responsabilité ou pas, mais de trouver les bons leviers pour atteindre mon objectif à la fin. Je pouvais pas dire, genre, on n'a pas fait notre target, c'est la faute du produit, parce que je sais pas quoi, il n'y a pas les bons moyens de paiement pour la France, par exemple, tu vois. On m'aurait dit, bah, arrange-toi pour que le produit mette ça dans sa roadmap. Et donc ouais, je trouve que cette notion d'ownership, elle est super importante. Et dans des tailles de boîtes comme la nôtre, il faut qu'on fasse gaffe à, faut qu'on fasse attention à pas se voir trop gros et à pas se dire en fait ce qui compte c'est les process, c'est l'orga, etc. C'est avant tout est-ce que les 150 personnes dans la boîte ont un sentiment d'ownership fort et ont le sentiment que ce qu'ils vont faire aujourd'hui est game changer. Je pense que c'est vraiment ça qui est.
Et d'ailleurs, en termes de taille critique, tu penses que c'est quoi le volume d'affaires, le volume de GMV, tu penses qu'il faut atteindre pour commencer à être une marque établie sur ces deux marchés que sont l'hospitality et la santé, pour se dire, OK, là, on commence à être, non pas dans une zone de confort parce que t'es toujours en conquête,
ouais.
Mais tu dis, OK, tu vois, est-ce que c'est 50 millions de GMV? Est-ce que c'est 100 millions? Est-ce que c'est 500, 1 milliard? Ou est-ce que tu dis, OK, là, on a commencé à vraiment, en fait, tacler, de manière significative, une part de marché dans laquelle on se dit, bah, on rentre dans une autre dynamique de boîte, plus.
Bon, alors, déjà, la première chose, c'est, je pense qu'on est, t'es jamais une marque établie, hein. Pour ça, je pense que, dire on est, c'est bon, j'ai réussi, je suis une marque établie. Je pense que c'est
mais
le meilleur moyen
et qu'il arrive des problèmes. Airbnb, quand ils étaient en conquête, à un moment, il y a eu une position tellement importante en France où tu, je sais pas que tu te reposes sur tes lauriers, mais tu passes à une autre dimension qui est peut-être les pubs télé, un truc un peu plus branding, inspirationnel.
Ouais, mais tu vois, Airbnb se fait attaquer en permanence. Enfin, Booking a lancé au milieu des années 2010 la partie logement chez l'habitant. À un moment, personne ne le savait, mais en fait, Booking posait autant qu'Airbnb sur cette partie-là. Non, je pense que t'es jamais vraiment une marque établie en réalité. Toi, t'es propriétaire en France, dans les Alpes, tu veux louer ton appartement, t'es pas obligé d'aller sur Airbnb, hein. Tu peux le mettre sur l'office du tourisme,
à Bruxelles.
Enfin, donc t'es jamais vraiment une marque établie, moi je pense. Par contre, il y a un truc chez nous qui est important. Donc, Brigade, c'est une plateforme multilocale. Airbnb, c'est global. Tu es français, tu vas en Amérique du Sud sur Airbnb. Brigade, c'est multilocal. Ça, c'est on connecte des talents parisiens avec des établissements parisiens, des talents à Londres avec des établissements à Londres. Et donc, il faut gagner les marchés les uns après les autres. Et je trouve qu'il y a un truc qui, il y a vraiment une notion de liquidité. Dans une ville donnée, sur un marché, donc sur la restauration à Paris, ensuite sur la restauration à Lyon, ensuite sur la restauration à Londres, et pareil sur la santé. Donc c'est vraiment ville par ville. Et moi, j'ai remarqué, il y a un premier seuil qui est autour de 1 million de GMV par mois, par an, pardon, 1 million de GMV par an, où là, en fait, tes talents, t'as suffisamment de liquidité pour que les talents puissent vivre full time de Brigade.
D'accord.
Et donc là, c'est un moment charnière. Parce qu'en fait, du coup, t'as des talents qui font beaucoup de missions. Du coup, les business sont contents parce qu'en fait, t'as des talents confirmés, etc. Donc, t'as ce premier moment charnière,
Ouais.
à peu près 1 million de GMV par an. Et après, je pense que t'en as un deuxième qui est autour. On n'y est pas. Hein, moi, je pense qu'il est autour de, j'irais 4-5 millions d'euros de GMV par mois, qui va être le moment où en fait tu seras devenu le choix numéro un de tes utilisateurs. Et ça, pour un business de plateforme, c'est essentiel d'être le choix numéro un de tes utilisateurs. Parce qu'en fait, dans un business de plateforme, contrairement à un business d'abonnement, chaque fois nous, ils ont toujours besoin de staff. Un restaurateur, il a toujours besoin de staff. Mais la question, c'est comment je trouve mon staff?
Ouais.
Et donc, il faut que tu sois top of mind, en fait. Donc, l'enjeu, c'est pas tellement je pense que typiquement à Paris, sur la restauration, aujourd'hui, on a un bon niveau de notoriété assistée. Mais on n'a pas encore une notoriété spontanée suffisante. On n'est pas encore, ah tiens, j'ai besoin de staff, boum, je vais aller sur Brigade. Tu vois, on a besoin encore
D'éduquer.
de faire ça.
OK.
On doit devenir le choix numéro un de nos utilisateurs dans tous nos marchés.
Très clair. Peut-être sur la dernière partie, moi j'aimerais bien qu'on regarde un peu ton rôle, comment c'est intéressé ton rôle avec la partie gouvernance de la boîte et
Ouais.
notamment ton rôle aussi avec les deux fondateurs,
Ouais.
parce que ça c'est hyper intéressant parce que tu apportes bien sûr tout ton XP d'Airbnb. Comment tu as aidé Flo peut-être sur des enjeux. Tu as vécu des bridges, des levées de fonds.
Ouais.
Je pense que tu as été instrumental dans pas mal de ces opérations. C'est comment t'as évolué là-dedans? Est-ce que tu étais plutôt enabler? Est-ce qu'à un moment tu t'es dit OK, il faut que je sois en responsabilité et je vais m'y coller. C'est et voilà. J'aimerais bien qu'on creuse ce côté-là parce qu'il est pas simple. Je
Ouais.
pense que tu l'as bien fait. Et donc j'aimerais bien voir ton
Ouais.
point de vue.
Bah, nous, déjà, donc moi, quand je suis arrivé, donc il y avait Flo et Jean à la tête de la boîte. Moi, j'étais le troisième en C-level. On était trois. Et ensuite, on a complété petit à petit. Donc maintenant, on est six en C-level. Avec Brieux, le CTO, Violaine, notre DRH, et Marc, notre CFO.
Ouais, marque que j'essaierai d'avoir.
Ouais. Et alors déjà, on a un fonctionnement très collégial. C'est-à-dire que je trouve qu'on se parle beaucoup. C'était le cas notamment pendant le Covid. On se parle beaucoup et on prend beaucoup de décisions en commun. Et je pense que, je parle un peu en son nom, mais je pense que Flo a besoin de ça. Flo a vraiment besoin de parler avec nous, de sentir le buy-in. Ce qui fait qu'on, franchement, moi je me suis jamais retrouvé dans la situation. Chez Brigade, où tu vois, j'aurais l'impression d'un peu subir une décision ou subir un choix de la boîte, quoi. J'ai vraiment jamais senti ça parce qu'on a vraiment ce truc où on décide beaucoup ensemble. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot parce qu'à la fin, il faut que quelqu'un décide. Évidemment qu'il y a plein de sujets, on n'est pas d'accord, et heureusement. Mais donc, à la fin, quand il faut que Flo décide, il décide. Mais en tout cas, il y a vraiment ce truc de on parle, on prend les avis de tout le monde, on discute, on nourrit la décision. Et puis à la fin, quand la décision est prise, en fait, il y a un buy-in, quoi. Il y a un buy-in assez naturel, je trouve. Donc ça, c'est vraiment une grosse force, je trouve, de notre équipe de leadership. Et ça s'est vu à toutes les étapes de la boîte. Avant le Covid, la période difficile du Covid, depuis, les levées de fonds, etc. Donc ça, c'est le premier point. Et donc moi, j'essaie de faire en sorte que là-dedans, mon rôle, ça soit... c'est pas à moi de décider les points sur lesquels je suis pas décisionnaire, mais ouais, d'être là quand il faut nourrir la décision. Donc... d'être là quand il faut nourrir la décision et bon, je suis assez assertif de toute façon, donc quand j'ai un truc à dire je le dis et donc j'ai toujours essayé dans les moments importants de la boîte d'apporter ma pierre en disant ok, si on prend telle décision ça a telle et telle conséquence, est-ce qu'on est tous alignés là-dessus, ouais, mais ça c'est assez naturel chez moi, je pense que je suis j'aime bien le débat, tu vois, j'aime bien...
Tu fais le voice-over de plein de trucs, quoi.
Ouais, j'aime bien le débat, j'aime bien... on ne verra jamais dire « Ah oh, tiens, ouais, ça, c'est pas ma décision, c'est pas mon sujet. Okay. » J'aime le biais inverse, quoi. Faut parfois, je me réfrène un petit peu, parce que je peux... Sinon, je peux avoir envie de m'occuper de tout, de mettre mon nez partout. Donc, ça, je le fais assez naturellement, je pense, en réalité.
Très cool. Et peut-être pour finir un peu sur les enjeux futurs.
Ouais.
C'est quoi, toi, tes deux, trois gros sujets à venir d'un point de vue revenu top line? C'est quoi, ouais, tes futurs challenges pour...
Ouais, moi, j'ai un peu deux sujets, en fait, en parallèle. J'ai un premier sujet qui est... j'ai un premier sujet qui est celui de la croissance et j'ai un deuxième sujet qui est celui du playbook d'expansion. Je vais peut-être en parler un petit peu des deux. Celui de la croissance, on est à un stade... il y a un super bouquin d'un mec qui s'appelle Jeffrey Moore, hein, qui s'appelle Cross the Chasm.
Ouais.
J'encourage tout le monde à le lire, j'adore ce bouquin. Où en fait, il explique que, et je pense qu'on est un peu à ce stade-là, où la plupart des boîtes ont un problème quand elles passent de leurs early adopters au mass market, parce qu'elles font que tirer le trait. Et elles disent, ouais, il suffit de tirer le trait, on a conquis, je sais pas, 10 000 utilisateurs, on met x3 en budget, ça va faire x3 en utilisateurs. Et en fait, la plupart des boîtes se rendent compte que ça marche pas comme ça, parce que tes utilisateurs mass market, et il faut les convaincre différemment, il faut que t'aies vraiment la meilleure expérience pour les convaincre, etc. Et donc nous, on a vraiment ce truc aujourd'hui de comment est-ce qu'on fait pour continuer à accélérer fortement, à grossir fortement, en rentrant dans cette partie mass market. Et donc typiquement, tu vois, on a des groupes de restauration qui nous utilisent parce que le DRH ou la DRH m'a dit. Donc eux ils sont early stage et ils m'ont dit vous êtes pas parfait, votre produit n'est pas parfait, j'ai plein de questions sur l'expérience, etc. Mais j'achète complètement votre vision et je suis d'accord avec vous, brigade, c'est le futur du travail, c'est ça le futur du travail dans la restauration et donc je veux en faire partie. Dans le mass market, c'est pas ça. Dans le mass market, ils te disent moi le truc du futur du travail, c'est pas mon sujet. Moi mon sujet c'est pourquoi Brigade c'est génial, pourquoi je vous prendrais pas vous et un autre, enfin pourquoi je vous prendrais vous et pas un autre. Et donc en fait, il faut changer ton pitch commercial, il faut changer tes process de vente, il faut bosser sur le produit. Et donc il y a vraiment ce truc là d'être capable de en même temps évidemment recruter parce qu'on veut accélérer, mais en même temps bosser sur les fondamentaux qui vont être les fondamentaux essentiels pour gagner le mass market. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est la croissance. C'est vraiment ça, mon d'un point de vue un peu high level, mon sujet. Et le deuxième sujet, c'est le playbook d'expansion. Comme je disais tout à l'heure, notre marché, il est immense. C'est les travailleurs col bleu dans plein de secteurs différents et dans plein de pays du monde. Il est immense, mais il est très segmenté. C'est plein d'industries et plein de villes. Et donc, en fait, pour gagner ce marché, il faut qu'on ait un playbook d'expansion, quoi. Il faut qu'on... Et on a réussi à le faire sur la santé. Lancer la santé en France, comment on réplique ce playbook de façon industrialisée pour être capable d'aller ouvrir des villes de façon industrialisée et que ça marche, d'aller ouvrir de nouvelles verticales et que ça marche. Et donc ça, c'est mon deuxième sujet, c'est le playbook d'expansion. Comment tu fais pour avoir un playbook d'expansion qui est scalable? Donc, il y a vraiment ces deux sujets-là qui sont essentiels. Gagner le mass market en changeant tes process, ton cycle de vente, tes arguments de vente. Et deuxièmement, playbook d'expansion. Comment tu fais pour gagner des micro-marchés les uns après les autres de façon scalable?
Et tu penses que tu vas devoir faire les deux ou finalement juste te concentrer sur le premier? C'est tellement un business dans lequel tu vas faire x10, x30, x50.
Bah là, on les fait dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on fait d'abord le premier.
Ouais.
Et ensuite le deuxième. Et je pense que faut toujours arriver à lancer, en fait. C'est toujours une bonne chose. Donc moi, j'ai un peu ce truc de, en fait, Oui, si je raconte l'histoire, tu vois, l'elevator pitch, c'est on fait le premier, puis on fait le deuxième. Donc, on fait d'abord enfin grossir sur le mass market, sur nos marchés existants, et demain, on fera l'expansion. Mais en fait, en réalité, on a déjà un pied dans l'expansion. On lance des villes en santé, on lance des villes en France et au UK, parce qu'en fait, on se nourrit, on commence à construire ce playbook pour que le jour où on dit boum, on investit X millions d'euros pour faire X pays. Et ben en fait, on arrive lancé, on n'est pas en train de se poser la question de ah oui, d'accord, mais comment on le fait? En fait, on n'a jamais lancé une ville, on ne sait pas comment on fait,
D'accord,
etc. Tu vois.
d'accord.
C'est hyper important d'arriver. Donc, une partie un peu labo, en fait. Il y a une partie un peu labo.
À l'image de Airbnb qui ouvre toute l'Europe, quoi. One shot, c'est ça. Lorsqu'elle fait sa série B de 100 millions et plus, enfin,
Ouais.
des sites, appuie sur un bouton. Alors, je sais pas si le playbook était sec à l'époque. Sans doute pas d'ailleurs.
Non, pas complètement. Mais non, pas complètement. Mais ouais, en fait, ce que moi j'ai aimé chez Airbnb, je pense, c'est le côté hyper pragmatique. C'est-à-dire que Airbnb, toi, ils sont pas faits. Il y a pas un cabinet de consultants qui a fait des slides dans tous les sens pour expliquer que l'Allemagne, ça allait être mieux que l'Espagne ou moins bien que l'Italie ou je sais pas quoi.
Ils ont fait.
Ils ont dit dès 2008, en fait, hein, dès l'ouverture, en fait, notre plateforme va être partout dans le monde. Un Japonais pourra utiliser Airbnb pour aller en Australie et payer en dollars US. Et en fait, ils ont mis un peu de budget marketing, mais très limité, tu vois. Ils ont commencé par quelques milliers d'euros dans certains pays. Ils ont dit, tiens, c'est intéressant, l'Espagne, on a de la croissance. Ah, tiens, en Asie, on n'a pas de traction. Et en fait, quand ils ont levé leurs 100 millions, ils avaient déjà la data, tu vois. Et ils ont dit, quand on leur a dit, c'est quoi les pays sur lesquels vous allez accélérer? Ils ont pas dit, on a fait une grosse étude de conseil, machin. Ils ont dit, en fait, on a 4 ans de data. Et avec ces 4 ans de data, on vous montre que le CAC en Espagne est meilleur que en Russie. Et voilà. Et en fait, donc, ils étaient capables de dire voilà les pays dans lesquels on veut accélérer. Et donc ce côté hyper pragmatique, moi je l'ai trouvé vraiment super. Et j'ai pas mal envie de m'inspirer pour le playbook d'expansion chez nous. Ouais. Tu vois, de se dire en fait. Plutôt que de réfléchir pendant 6 mois ou un an avec des études dans tous les sens pour savoir s'il faut faire l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie, eh ben tu le testes en fait. Tu mets des tout petits budgets, tu recrutes personne, tu mets des tout petits budgets, tu te fais des campagnes d'acquisition, tu fais quelques landing pages et tu vois en fait, tu vois où est de l'attraction. Ah tiens, notre modèle, les Espagnols, ça les intéresse. Ah les Hollandais, ça les intéresse pas parce qu'en réalité ils sont tous déjà freelance, donc ils voient pas la différence. Et en fait, ouais, je suis assez pragmatique, quoi, sur l'expansion.
Bon, la vraie dernière question sur la partie de talent. Toi, quand t'es arrivé finalement, est-ce que t'as récupéré des talents avec qui tu bossais? Est-ce que y a une mafia autour de toi dans laquelle tu t'es dit, ok, bah super, je viens avec de la manière que Olivier t'a appelé
Ouais.
côté Airbnb. Est-ce que t'as fait la même chose de ton côté?
Non, 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 j'ai recruté personne chez Airbnb, tu vois. Pas
D'accord. Mais parce que
seule personne.
t'avais une non-compete.
Bah, j'avais les mêmes clauses que t'as partout, mais c'est une bonne question en fait. Alors, je pense que c'est très, enfin, je pense que les jobs, les équipes qu'on avait chez Airbnb étaient très différentes. C'est pas le même métier que les équipes qu'on a ici. J'avais quelques sales, mais j'avais beaucoup de marketing offline. J'avais beaucoup de partenariats, j'avais beaucoup de lobbying, j'avais beaucoup de community management. J'ai des métiers assez différents en réalité. Il y a une ou deux personnes à qui j'ai proposé de nous rejoindre, mais ça s'est pas fait. Et donc non, ça s'est pas trop fait comme ça. Moi, je suis arrivé ici. En fait, il y avait une équipe déjà. Il y avait une équipe et on a construit avec l'équipe. On a vraiment un ADN dans la boîte de faire monter les gens.
Ouais.
Tu vois, t'as parlé à Julia. Julia, c'était la première sales de la boîte, la deuxième sales de la boîte, et elle est montée jusqu'à être VP sales sur la santé aujourd'hui.
Pareil pour Fabien.
Pareil pour Fabien. Et donc on a eu en fait plusieurs exemples dans la boîte comme ça. Et je me suis surtout appuyé sur ça. Après, on a recruté en externe évidemment, bon, en plus. Mais il y a eu beaucoup de personnes qui ont monté avec Brigade. Je trouve ça important parce qu'en fait, surtout quand t'as un modèle disruptif, comme c'est le cas avec Brigade, quand t'apportes quelque chose de nouveau dans un marché, en fait, moi je me dis souvent, attends, là j'ai un poste de manager. Alors oui, je peux aller chercher de l'expérience ailleurs, mais j'ai quand même quelqu'un chez nous, ça fait 2 3 ans qui se coltine d'aller vendre ce modèle disruptif. Il a roulé sa bosse, il a compris les objections des clients, etc. Donc fondamentalement, est-ce que c'est plus dur d'apprendre le management ou d'apprendre à vendre notre modèle disruptif? Bah, il y a match, quoi. Et le fait est qu'on s'est assez peu trompé en faisant monter des gens managers, en réalité. Donc ça, ouais, c'est aussi globalement, moi, je trouve que en fait, un bon réflexe, je vais le dire comme ça, un bon réflexe, c'est si t'as un poste de manager ou un poste de head of qui est ouvert, plutôt que de se dire d'abord, tiens, je vais aller voir ce qu'il y a en externe, la première question à se poser, c'est pourquoi fondamentalement je ne prendrais pas quelqu'un en interne? C'est quoi la raison fondamentale? Et quand tu te poses la question dans ce sens-là, plutôt que de te dire c'est quoi le truc en plus que j'irais chercher en externe, bah souvent tu te dis bah ouais, fondamentalement, en fait, pourquoi cette personne-là, je ne la mettrais pas sur le rôle? Il n'y a pas vraiment de raison, en fait. Et moi, j'ai beaucoup plus d'échecs sur des recrutements externes que sur des montées en compétences en interne. Tu connais la personne, je veux dire, ça fait 3 ans que tu bosses avec elle, tu connais la personne, quoi. Donc, les chances qu'elle se plante sont quand même beaucoup plus faibles, en réalité.
Ouais, surtout si tu l'accompagnes.
Surtout si tu l'accompagnes.
C'est très clair. Un grand merci, Nicolas.
Merci à toi.
C'était passionnant. J'ai appris plein de trucs que je ne savais pas.
Tu vois.
Et puis, bien, j'ai hâte d'écouter cet épisode.
Merci beaucoup. Merci, Kamel.
Un grand merci pour votre écoute. J'espère comme moi que vous avez passé un agréable moment avec ce talent. N'hésitez pas à partager cet épisode de Startup Mafia autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ou une nouvelle saison. Ciao, ciao.